Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Raqqa et Mossoul, les deux capitales de l'État islamique sur le point de tomber. Kigali, au Rwanda, est-ce que la France a armé les génocidaires Hutus en 1994? Crans-Montana, c'est en Suisse, hein, reprise du dialogue entre les chypriotes grecs et turcs sur une possible réunification de l'île divisée depuis 40 ans. Et puis Hong Kong, là, les 20 ans de la rétrocession à la Chine célébrée sous les yeux de Xi Jinping. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, et vous allez voir qu'on pourra faire le lien entre tous ces événements. 7 jours dans le monde avec aujourd'hui Pierre Servent. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Spécialiste des questions de défense. Tiens, puisqu'on est début juillet, il faut penser évidemment aux grandes vacances. Il faut penser qu'est-ce qu'on va lire sur la plage. Oui, un essai, Les prisonniers de la guerre, 1958-2017. Un roman, Le Testament holique. Oui, d'autres idées. Voici Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Oui, avec notamment, eh bien, 1917, l'année qui a changé le monde. On a encore le temps jusqu'au 31 décembre, bien sûr, les 100 ans. Et puis, journal d'un diplomate en Russie, 1917-1918, de Louis de Robien, justement, pour pénétrer les coulisses de la révolution russe de 1917, l'un des grands événements, évidemment, de cette année 1917. Alors, plus près de nous, évidemment, c'était il y a 3 ans pile, hein, Abou Bakr al-Baghdadi, qui proclamait le califat. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'on le voyait publiquement, le chef de l'État islamique. C'était à la mosquée Al-Nouri de Mossoul, hein, une mosquée emblématique dont le minaret dominait la ville avant d'être détruit, c'était mi-juin. Mosquée qui vient d'être reprise par l'armée irakienne, ce général irakien.
La déclaration faite par le général commandant des forces armées fait état du début du retour de Mossoul à l'Irak. Et cela devient évident depuis que les héros de nos forces antiterroristes ont libéré la mosquée Al-Nouri, le symbole le plus important de l'État islamique.
Ouais, ce général irakien. Et d'ailleurs, ce qui a fait dire au gouvernement de Bagdad, hein, c'est la fin du pseudo-État islamique. Alors bon, Pierre Servent, pas normalement, forcément, mais en attendant, on a toujours une poignée de djihadistes, hein, qui se bat de façon acharnée, hein, pour défendre quelques arpents de la vieille ville, minée, piégée d'ailleurs, où des dizaines de milliers de civils sont reclus, d'ailleurs souvent utilisés comme boucliers humains.
Oui, effectivement. Alors sur le plan symbolique, on peut considérer que la ville est reprise, mais sur le plan militaire, elle ne l'est pas. Et il faut toujours être prudent, parce que les derniers mètres carrés à reconquérir, sachant que c'est un concentré de djihadistes pour lesquels il n'y a qu'une porte de sortie, c'est la mort, en essayant d'entraîner le maximum de soldats irakiens. Il faut savoir que c'est vraiment là où se situe le maximum de difficultés. En plus, c'est une la topographie des lieux fait que ce sont plus des ruelles entrelacées, donc c'est assez compliqué. Les appuis feux, notamment par l'aviation, sont plus compliqués à faire. Les hélicoptères sont plus efficaces parce qu'ils peuvent descendre plus bas, mais vous avez rappelé qu'il y a la population civile, donc ça n'est jamais simple. Et il faut quand même dire d'un mot pour les assaillants, hein, pour les forces irakiennes, la division d'or, différentes forces, police ou contre-terrorisme, sur le plan psychologique, pour être allé sur des théâtres de guerre de ce type, c'est extraordinairement dur pour l'assaillant parce que vous êtes obligé de descendre des véhicules, donc vous n'êtes pas protégé par le blindage des transports de troupes contre ce qu'on appelle la ferraille du champ de bataille, et donc vous êtes extrêmement vulnérable. Plus, on l'a vu, malheureusement, des journalistes ont été tués, tout ce qui est engins explosifs, mines, etc., qui est concentré, ils sont passés maîtres dans cet art-là. Donc, c'est des guerres asymétriques, vous avez d'un côté un fort, de l'autre côté un faible, mais le fort militaire, psychologiquement, c'est extrêmement dur. Et il faut rappeler que dans les premières semaines, donc il y a 9 mois, du début des opérations sur Mossoul, au bout de quelques semaines, il y avait pratiquement 2 à 3000 combattants irakiens, donc assaillants, qui étaient mis hors de combat, tués ou blessés en quelques semaines de combat. Donc ce sont des combats très durs. C'est vrai que là, on s'approche de la fin, mais je serais incapable de vous dire si c'est dans une semaine, 15 jours, ou si on va encore continuer pendant l'été. Voilà, parce que encore une fois, la pression militaire et psychologique est extrêmement dure.
Dixit Washington, Dixit des officiers irakiens, la reprise totale de la ville est question de jour. Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine.
En octobre, on nous a dit que ce serait aussi une question de semaines, peut-être de mois. Octobre, ça fait quand même plus de 8 mois qu'on bataille. Effectivement, les derniers jours seront les plus difficiles parce que ce sont des desperados qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire qui se battent, ce sont des snipers, des kamikazes potentiels et des gens qui mettent des mines. Donc effectivement, pour combattre ces derniers combattants, c'est sûrement les moments les plus difficiles. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il y a énormément de pertes de l'armée irakienne. Ouais. On en parle pas beaucoup parce que tant que c'est pas des Français ou des journalistes, ça nous concerne moins. Mais ils perdent beaucoup d'hommes dans cette bataille. Et puis surtout, ils se disent non seulement demain, qu'est-ce qu'on fait à Mossoul? Donc ça, c'est évidemment une première question et sûrement pas ce qu'on a fait il y a 15 ans qui était désastreux. Même si ils ont été vaccinés contre les islamistes, tous les retours qu'on a des journalistes, c'est vraiment ça, ils ont compris, ils en veulent plus. Mais bon, l'État, que sera l'État fédéral irakien demain? Et puis ensuite, il y a effectivement Raqqa, qui sera, c'est une ville qui est 10 fois moins grande, plus difficile, mais il y a un désert tout autour, donc ça va être une dispersion. Et puis surtout, il y a une bataille qui se prépare, c'est Tal Afar. On n'en parle pas beaucoup, c'est entre Mossoul et Raqqa, justement la frontière syrienne. Et Tal Afar, c'est vraiment le nid de départ de l'État islamique, en tout cas des cadres de l'État islamique. C'est une petite ville turkmène qui est à la frontière syrienne, où tous les grands dirigeants de l'armée irakienne de Saddam Hussein ont basculé dans l'État islamique à partir de là. Et là, symboliquement, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un nœud de combattants les plus aguerris qui sont aujourd'hui à cet endroit. Et ça sera une bataille aussi très très rude.
Ouais, la ville de Mayadin aussi, hein, sur l'Euphrate, au sud de Deir ez-Zor, justement, eh bien, où refluent eh bien, tous les combattants djihadistes. De Raqqa, là aussi, hein, bon, qui sont obligés de partir, hein, face à des combattants arabes et kurdes. Oui, l'État islamique qui va se replier ailleurs, survivre, Pierre Servan, au travers peut-être de cellules clandestines, terroristes, ça et là.
Oui, c'est l'expression que j'utilise souvent, qui est une expression venue du monde militaire. Ouais. Effectivement, les guerres Mercure, donc le gros de la boule de Mercure est sérieusement détruite, mais vous avez ces myriades après de petites boules qui partent. Sur Tal Afar, c'est très intéressant, parce qu'on est baigné de certaines informations officielles et on se rend compte que la réalité est différente. Tal Afar devait être pris il y a déjà plusieurs mois par les milices chiites irakiennes de façon à complètement fermer le dernier verrou d'extraction des combattants de Mossoul. Vous savez, mais ça va se passer très très bien, etc. Et Jean-Christophe Buisson a raison de dire, la bataille de Tal Afar n'est toujours pas engagée, elle n'est toujours pas gagnée. Donc, cet État islamique qui est en voie de dislocation et de destruction a une capacité mutante à des combattants locaux et étrangers venus de 90 pays différents.
Ils vont continuer à pouvoir recruter quand même, parce que le fait quand même d'être défait à Raqqa, d'être défait à Mossoul, quelque part, Raqqa et Mossoul, c'était une vitrine, c'était la propagande, ça les servait. Maintenant, ça tombe, qu'est-ce qu'ils font?
Voilà, alors effectivement, parce que depuis 3 ans, les fondamentaux qui venaient nourrir ce proto-État, ce pseudo-État, disparaissent les uns derrière les autres. L'argent. Donc les différents trafics ont été coupés. L'argent liquide qu'ils avaient récupéré dans la banque de Mossoul, 650 millions de dollars de devises étrangères.
Dès les premiers jours, il y a 3 ans pile.
Ils ont été, ces billets ont été cramés par des bombardements ciblés sur renseignements très précis. Le trafic des œuvres d'art sur lesquelles ils se sont appuyés, l'impôt révolutionnaire, tout ça s'est réduit. Tout l'armement un peu lourd et statique a été détruit par la coalition. Donc vous avez raison, il y a vraiment un problème d'approvisionnement d'armement. Ça sera vrai pour Raqqa et c'est vrai aussi pour Mossoul, même s'ils ont construit des mini-usines de l'artisanat pour fabriquer ces armements. Donc ce qui fait que les manœuvres de grande ampleur, c'est terminé pour eux. En revanche, la guérilla avec des moyens légers, ce qu'a fait Al-Qaïda en Irak à partir de 2003, Al-Qaïda grosso modo avec ses soutiens est parvenu quand même à faire entre 3000 et 4000 morts américains à partir du moment où la guerre était gagnée. Les Américains ont commencé à perdre des hommes de façon considérable, avec des moyens extrêmement légers. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il y avait explosifs, kalachnikov, mortiers, roquettes.
On appelle les IED, les engins explosifs au bord du chemin.
Et tout dernier point, parce que je pense qu'on en parlera à la rentrée si vous nous faites la gentillesse de nous réhabiliter, c'est la Libye. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois explosion de la boule de mercure et puis transfert, tentative d'aller chercher d'autres ventres mous dans la zone.
Ouais, on va rappeler quand même, depuis 2011, 320 000 morts, atrocités, massacres, génocide des yézidis, l'État islamique qui n'a jamais mais modéré, donc, et sa barbarie. Le régime de Damas aussi, bombardement de civils, attaques chimiques. Et on a vu comment, aujourd'hui, cette semaine encore, Français et États-Unis menaçaient Bachar al-Assad en cas de nouvelles actions de ce type. Encore un mot sur le proche et le Moyen-Orient. Est-ce que j'aurais qu'on aborde un autre sujet? Je vous le disais, on va faire le lien entre plusieurs actualités plus ou moins récentes.
Oui, juste pour dire, moi, je serais un tout petit peu plus optimiste que Pierre Servan. C'est que pour moi, l'État islamique reposait sur trois piliers qui étaient le territoire, l'argent et l'image. L'argent, ils ont perdu 80% de leurs moyens financiers. Le territoire, ils ont perdu déjà 60% du territoire. Ils ne sont plus dans une idée de conquête territoriale et qui a beaucoup fait pour la propagande, ce qui amène le troisième point qui est l'image. Effectivement, l'idée que Raqqa et Mossoul, qui sont les deux capitales de l'État islamique, s'effondrent, va quand même considérablement perturber l'image de dynamique, de conquête,
d'invincibilité de l'État islamique,
même si effectivement, comme vous le dites très bien, l'effet Mercure est tel qu'il y aura effectivement des conséquences plus isolées de cette attaque.
Alors justement, dans l'histoire de ces dernières décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale notamment, hein, combien de fois a-t-on dit, promis, répété, plus jamais de massacres, hein, plus de génocide. Et pourtant, et l'actualité de la semaine est venue nous rappeler que régulièrement, ces promesses, elles sont vaines. Hein. On a en effet reparlé il y a quelques jours du génocide rwandais quand en 1994, 800 000 Tutsis furent massacrés par les Hutus après l'assassinat en plein vol du président Habyarimana. Peu de temps après, la France lançait l'opération turquoise avec la mission officielle de protéger les Tutsis. Seulement voilà, des informations apportées cette semaine par la revue 21, par Le Monde, par Radio France, nous disaient que sur la foi notamment d'un haut fonctionnaire français, le pouvoir de l'époque, il y avait François Mitterrand à l'Élysée et puis Édouard Balladur à Matignon, aurait livré illégalement des armes aux Hutus. Il y avait un embargo. Des armes dont certaines auraient été financées par BNP Paribas pour plus d'un million d'euros. Une plainte a été déposée par des ONG contre la banque, laquelle ne fait aucun commentaire. Alors, question pêle-mêle à tous les deux. Hein. Que pensez-vous de ces infos? Est-ce que la France a voulu sauver le régime qu'elle soutenait? Combien de temps encore les relations entre Paris et Kigali, comme ça, seront viciées, seront pourries? Pierre Servan.
Alors, je dois dire que je suis toujours très en colère quand je vois ces informations qui sont distillées et perlées au fil des mois depuis 20 ans, qui donnent lieu à des couvertures médiatiques extrêmement importantes, quand il y a comme ça des informations qui sortent, une plainte.
Et vous êtes aimable en disant information.
Voilà, et qui ne débouche sur rien sur le plan judiciaire, et le fait que ces plaintes soient déboutées ne donne lieu jamais à des informations derrière. Donc je dois dire que je trouve ça vraiment assez choquant.
Alors on est là justement pour rétablir absolument la vérité. Alors voilà, ce qu'il faut dire aussi, voilà, juste Pierre Servan, dans votre carrière, colonel de réserve, écrivain à succès, à l'époque... Vous étiez au cabinet?
Non, alors pas au moment de Srebrenica dont on va parler, mais pas en 95, pas, 94. Non, effectivement, d'accord. Je suis pas encore au cabinet.
Vous n'êtes pas encore au cabinet.
Je suis journaliste au Monde à l'époque.
Alors journaliste au Monde. Voilà. Journaliste alors au Monde. Allez-y.
Et donc, il y a quelques fondamentaux simples qu'il faut rappeler. La première chose, c'est que ce drame terrible, ce génocide, c'est un génocide entre Africains. Ce sont des Rwandais chrétiens qui massacrent d'autres Rwandais chrétiens. Donc c'est un drame épouvantable qui interroge la conscience de nos amis africains. Alors que depuis des années, différentes associations essayent de transférer ce questionnement. Je ne donne pas la réponse. C'est question-là. Pourquoi on retrouve ça aujourd'hui au Sud-Soudan? Pourquoi on retrouve ça au Burundi? Pourquoi on trouve cela en Centrafrique aujourd'hui? Et donc, nous empêchons nos amis africains de s'interroger sur cette question et sur ce qui s'est passé. C'est le premier point. Le second point, c'est que ce génocide sur les quatre du XXe siècle, arméniens, juifs et tziganes, cambodgiens et ce génocide, c'est le seul, à mon sens, je l'avais qualifié à l'époque, de génocide de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas de tous ces Rwandais Tutsis qui ont été massacrés, avec quelques Hutus modérés, dans une immense majorité des cas, ils connaissaient leur assassin. Les autres génocides, c'est l'inverse. Les gens qui ont été tués par des machines qui ont été mises en place, enfin par des
systèmes,
ne connaissaient pas les gens qui les ont mis à mort. Là, ce sont des voisins qui, le matin, partaient au travail avec les outils du quotidien de l'ouvrier rwandais, la machette, alors parfois ils faisaient des gourdins, etc. Très peu d'armes à feu, l'étendue du génocide, parce que ce qui est épouvantable, c'est que c'est en quelques semaines que vous avez 800 000. Pourquoi ça a été possible?
Avril et juin, vaguement.
Parce que vous avez eu ce génocide de proximité. Donc, toutes les accusations de dire on leur a apporté des armes, etc. Mais
les informations, entre guillemets, en tout cas, les accusations.
Parce que les fameuses armes dont on parle ont été livrées au Zaïre.
Au Zaïre, exactement.
À un moment où le génocide, tragiquement, est déterminé. Troisième point très important, c'est que la communauté internationale est restée passive, sauf un pays qui a sauvé des milliers, voire des dizaines de milliers. La France avec l'opération Turquoise. Donc, vraiment, à chaque fois, il y a cette tentative d'effacer ces trois points forts, on pourrait développer après, et je dois dire que ça me choque profondément.
Jean-Christophe Buisson.
Exactement comme vous, Patrick de Saint-Exupéry, qui est l'auteur de cette
article, de la Revue 21,
poursuit un combat personnel depuis 20 ans sur ce sujet. Bon. Et là, ce qu'on lit dans ce journal, c'est un haut fonctionnaire qui anonyme qui témoigne. Moi, j'appelle pas ça une information, elle est pas recoupée. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, faut toujours recontextualiser. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'histoire de la BNP. C'est une transaction financière. À ce que je sache, les banques ne savent pas forcément ce que va devenir leur argent, à quoi sert l'argent quand ils font intermédiaire entre un particulier et une banque.
Pour ces raisons, BNP Paribas, à une époque, a été condamné à quelques milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour des transactions qui concernaient l'Iran. Bien sûr, oui. Voilà.
Mais surtout, recontextualisons. C'est-à-dire que lorsqu'ils fournissent effectivement des armes aux Hutus, les Français dans l'opération turquoise, ils leur fournissent pas d'abord des armes massives, ils leur font des armes pour se défendre parce qu'il est en train de se préparer ce qu'on appelait un contre-génocide. Quand on parle du génocide des Tutsis, il faut aussi parler des millions de Hutus, des conséquences qu'il y a eu sur Mobutu a été renversé ensuite après ça, des millions de Hutus qui ont été tués dans ce contre-génocide auquel les Tutsis ont allègrement participé. Et les Français n'ont fait que aider des gens à se défendre contre ce qu'ils sentaient venir, c'est-à-dire un autre génocide dans l'autre sens. De là en faire des gens qui arment les génocidaires Hutus, il y a vraiment une exagération. Bon, et comme l'a très bien dit Pierre Servan, les Français étaient les seuls sur le terrain à s'interposer entre
au secours des Tutsis.
Hutus et Tutsis.
Alors, l'Afrique toujours, on avait parlé il y a 3 ans, donc la France, elle avait envoyé des troupes en République centrafricaine pour éviter des massacres entre ethnies chrétiennes et musulmanes. C'était l'opération Sangaris, troupes qui sont reparties il y a 6 mois. À part Bangui, la capitale, le reste du pays est à nouveau le théâtre de violences de la part de milices. On parle quand même de centaines de morts depuis un mois, depuis le mois de mai. Affrontements entre ethnies religieuses, chefs de guerre, sur fond aussi de pactoles miniers. Emmanuel Macron, il se trouve ce dimanche à Bamako, pour parrainer une nouvelle force militaire au Sahel, est-ce qu'il va devoir à nouveau envoyer des troupes en République centrafricaine? Un mot, Pierre Servan, Jean-Christophe Buisson.
Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de le faire, parce que c'est une situation inextricable. La France a plusieurs fois fait des appels à nos partenaires européens pour venir nous aider. Évidemment, personne ne se précipite. Ouais. Notamment à cause du Rwanda. Nos partenaires européens voient que quand la France agit, sauve des vies, elle se retrouve régulièrement tous les 4 matins avec des accusations absolument mirobolantes. Elles sont
dans un sens tragique, si je veux dire. Sûr,
Donc elles n'ont aucune envie d'aller là-bas, où effectivement il y a ces envies génocidaires, ces affrontements ethniques. Mais vraiment, vous avez des témoignages, entre parenthèses, je veux dire, ça se passe au Sud-Soudan, notamment en ce moment. Tout le monde s'en fiche complètement. Après, on va se réveiller après, on va dire quoi? La France n'est pas intervenue dans notre pays, etc. Donc c'est consternant. Donc je doute que la France ait envie de le faire. Il faut dire une chose aussi, parce que les soldats français de Sangaris, qui ont fait un boulot extraordinaire dans un pays très étendu, très compliqué, vous n'avez pas des autoroutes pour vous déplacer, c'est une extrême complexité, eh bien, dans le cadre de ce qu'on appelle les stress traumatiques post-guerre, il y a eu un nombre considérable de soldats français, et j'en ai eu des témoignages directs de l'ancien gouverneur militaire de Paris, le général Charpentier, qui s'est beaucoup occupé de ces cas-là, de soldats, jeunes soldats, moins jeunes, qui sont entrés totalement traumatisés devant la masse des charniers, la violence, la façon très africaine. J'ai été officier de la force Licorne en Côte d'Ivoire plus tard. Je connais un peu l'Afrique. C'est-à-dire une situation où tout va bien, et puis tout d'un coup, la violence éclate, et vous avez 15 morts à 200 mètres de vous, parce que les gens se sont étripés, et les journalistes vont arriver en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais attendez, on n'a rien fait parce que vous avez une masse de personnes qui est en train de s'étriper, vous ne savez même pas ce qui se passe au cœur du dispositif. Et donc cette violence brute qui démarre et qui part, à mon avis, je ne suis pas sûr que le président Macron ait envie de renvoyer des soldats là-bas, sachant que l'armée française est au taquet sur d'autres théâtres.
Vous me disiez un mot juste dans ce contexte, les chefs de milices qui profitent aussi peut-être en Centrafrique de la faiblesse des casques bleus. Petite parenthèse, on a vu cette semaine le budget des casques bleus, des opérations de maintien de la paix, amputé d'un demi-milliard de dollars, un peu plus de 7 milliards de dollars, c'est ça le budget des casques bleus, à la demande des États-Unis, qui financent quand même 30% de la note, et Donald Trump l'avait promis pendant la campagne, principalement impacté justement des missions en Afrique, en RDC, au Sud-Soudan, au Darfour, un petit peu plus au nord. Alors je sais pas si les casques bleus sont toujours efficaces, qu'on fait ce qui se passe en RDC, Jean-Christophe Buisson.
En termes de trafic, ils le sont parfois.
En termes de trafic.
Récemment, les troupes congolaises ou camerounaises ont été attrapées parce qu'elles revendaient des produits justement qui étaient récupérés par les casques bleus. Le problème, je pense que c'est que la mission, telle qu'elle a été définie pour la MINUSCA en Centrafrique, n'est pas adaptée. Il y a 12 000 hommes qui sont, donc ça veut dire 4 ou 5 000 hommes sur le terrain. Quand il y a 12 000 hommes, entre l'administration, la logistique, etc., ça veut dire qu'il y a 4 000 hommes sur un terrain, sauf qu'il n'y a pas un seul endroit où les gens s'entretuent. Il y en a des dizaines et des dizaines. Comment vous déployez à chaque fois une mission humanitaire dans des dizaines de points dont Pierre Savant a très bien dit que le conflit démarre sur une étincelle sans aucune raison autre qu'effectivement une rivalité locale et puis ces conflits religieux communautaires. Et c'est ça qu'on ne veut pas dire, c'est effectivement des conflits communautaires. La République centrafricaine est un non-pays, oui. Qui est un pays que traverse tout le monde depuis des siècles. Ce n'est pas un pays réel. Il y a 80% de chrétiens, mais les musulmans qui en plus sont réarmés par des islamistes dans le nord veulent prendre... Donc c'est inextricable, effectivement. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la mission qui est aujourd'hui de l'ONU sur place n'est pas adaptée à la situation.
Alors, on évoquait ces massacres, on évoquait le génocide rwanda de 1994. Autre génocide, selon la justice internationale, à cette même époque, 1995, cette fois en Bosnie, Srebrenica, donc, où 8000 hommes et adolescents avaient été assassinés par les Serbes de Bosnie. Enclave placée sous la protection de l'ONU, notamment des casques bleus néerlandais. Et au cours de l'évacuation de Srebrenica, donc, des soldats néerlandais auraient facilité la séparation des hommes et des femmes, tout en sachant que ces hommes pouvaient être exécutés. Ce fut le cas d'ailleurs en effet pour 350 d'entre eux. Et mardi, la cour d'appel de La Haye donc, a reconnu partiellement responsable l'État néerlandais qui devra donc verser des dommages-intérêts aux familles. Jean-Christophe Buisson, Pierre Serventien, Jean-Christophe aux Pays-Bas, au ministère de la Défense. On ne comprend pas vraiment cette condamnation. Hein.
Je la trouve effectivement singulièrement injuste. On peut d'ailleurs la comparer avec les accusations qui sont faites sur l'armée française. Ces pauvres néerlandais ne comprenaient pas vraiment la situation et personne ne comprenait la situation. Et surtout quand on la raconte comme on la raconte en juge, on a l'impression que vous aviez des forces militaires serbes qui massacraient des civils bosniaques. C'est un tout petit peu plus compliqué que cela. Pourquoi ? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, Srebrenica était effectivement encerclée par les forces serbes qui venaient là. Pourquoi ? Parce que depuis 3 ans, Srebrenica, qui était peuplée à 30% de Serbes avant la guerre en mai 92, quand les musulmans ont pris la ville, était peuplée à 100% de musulmans en juillet 95. C'est-à-dire qu'il y avait eu des massacres de Serbes, de civils, pas de militaires, de civils, tout autour. La ville a été nettoyée par un commandant qui s'appelle Nasser Oric, qui d'ailleurs a été convoqué au tribunal pénal international et blanchi, alors qu'il est responsable de nombreux massacres manifestement dans la région. Donc il y a eu une sorte de nettoyage ethnique de la part des musulmans. Quand les Serbes sont arrivés, ils n'avaient qu'une envie, c'est des représailles. Ce qui s'est passé, c'est que Sarajevo a abandonné
Srebrenica. Ce qui ne justifie pas ce qui s'est passé. J'ai compris, moi je précise.
Le président Izetbegovic dit d'ailleurs à monsieur au commandant Oric, qui n'était plus à Srebrenica, partez, parce que les Serbes vont arriver, et donc abandonne la défense de Srebrenica, et ordonne que deux colonnes quittent Srebrenica, une colonne d'hommes, c'est-à-dire tous les gens qui étaient mobilisés pour faire la guerre, donc potentiellement des soldats, et une colonne de civils. Et ensuite, les Néerlandais voient ça. Pour eux, il y a cette colonne de 25 000 personnes, il y a 5 000 soldats armés, bosniaques. Donc pour eux, c'est une guerre. C'est pas des civils,
des militaires. Qui vont être,
donc
d'accord.
Le temps qu'ils comprennent ça, effectivement, les Serbes ont isolé, ont séparé, ont massacré. Ça a été reconnu par l'État serbe. Mais de là à considérer que les Hollandais ont été complices de ça, je pense. D'abord, le terme de génocide est un terme juridique. Je pense que crime de guerre, il n'y a évidemment aucune hésitation.
Après, on peut dans j'ai le génocide, cité la volonté génocide. J'ai cité le TPI, le tribunal pénal international de La Haye. Un mot, Pierre Servent, parce qu'on va enchaîner le reste de l'actualité d'ici quelques secondes.
Jean-Christophe décrit très bien les choses. Notamment les groupes de combat bosno-musulmans avaient attaqué le soir de Noël des civils serbes orthodoxes qui fêtaient Noël. Et donc Mladic voulait absolument venger dans le sang, ce qui ne justifie pas l'épouvantable massacre qui s'est déroulé. Pardonnez-moi de citer mon livre sur les présidents et la guerre, mais je raconte dans l'intérieur ce que j'ai vécu au cabinet du ministre de la Défense.
Puisque
j'y étais.
En 95, vous y étiez.
Voilà. Et effectivement, je suis témoin des efforts, notamment de Jacques Chirac, là aussi, pour secouer la communauté internationale et pour intervenir. Et Jacques Chirac voulait absolument projeter la Légion étrangère pour faire deux bouchons défensifs sur Srebrenica. Et dans un premier temps, il voulait faire des frappes aériennes sur les Serbes pour les empêcher de pénétrer. Et ce sont les Néerlandais qui ont dit non, on ne veut pas parce que nous, on a nos propres soldats casque bleu intérieur. Ils vont se retrouver coincés. Après, nous avons eu besoin d'hélicoptères que nous n'avions pas sur zone pour projeter les légionnaires là-dessus. Les Américains ont dit non,
non, on peut pas vous les mettre à disposition.
Et donc mais il y a une sorte de transaction rapide qui a été mise en place.
Oui, mais après coup. Non, elle a été, la force d'action rapide, elle a été mise en place avant Srebrenica même, mais elle n'était pas sur place au moment où ça s'est déroulé.
Bon, Pierre Servent et Jean-Christophe Buisson, on va les retrouver à suivre justement Donald Trump sur les Champs-Élysées. Et puis l'histoire qui revient 40 ans après, est-ce que Chypre pourrait être réunifié? 7 jours dans le monde reprend. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde, toujours avec nous. Il y a Pierre Servent, donc auteur des Présidents et la guerre 1958-2017. Il en parlait il y a quelques secondes, le testament, il lit son roman. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, avec toujours 1917, l'année qui a changé le monde. Tiens, Pierre Servent, qui va commenter une nouvelle fois sur le service public, le défilé du 14 juillet, dans deux semaines, avec un invité vedette, donc le président américain Donald Trump, convié donc par Emmanuel Macron. Il sera bien là, sa première visite en France en tant que président. Bon, je mets de côté les commentaires de Jean-Luc Mélenchon. Tiens, d'ailleurs, à la une du Figaro Magazine, Jean-Christophe, avec Lénine et Trotsky, le retour des gauchistes. Le 14 juillet, c'est la fête de la liberté, donc Trump n'aurait rien à faire chez nous, dit Mélenchon. Tiens, Jean-Christophe, par quoi s'est justifiée cette invitation?
Bah, c'est justifié par le fait qu'on fête le centenaire de l'arrivée des Américains en juin, je crois que c'est le 28 juin 1917, 17. Ils mettent les pieds à Saint-Nazaire, ils vont aider la France, pas vraiment en 17, plutôt en 18 d'ailleurs, à vaincre...
L'engagement lancé en 1917, vous expliquez très bien dans cette année 1917.
C'est tout à fait légitime. Ça aurait été Hillary Clinton, c'était la même chose. Il était évident qu'on allait inviter le président des États-Unis d'Amérique, légitimement élu, à participer à ce défilé qui honore les combattants de 1917, en l'occurrence des Français, des Américains, des Britanniques, des Canadiens et toutes les armées alliées.
Bon, il ne cherche pas Emmanuel Macron à faire oublier sa poignée de main un petit peu virile, non?
Non, il est très habile, parce que si Trump avait répondu, il était gagnant aussi.
Il
était gagnant aussi, parce qu'il l'aurait invité et l'autre aurait refusé, c'était parfait.
Et pourquoi il a accepté l'invitation, Donald Trump, Pierre Servent?
Parce que ça le sort aussi de son isolement. Ouais. Il a quand même des retombées médiatiques épouvantables. Je vais rappeler ici à cette table, quelques semaines après sa prise de fonction, donc le président Trump, qu'il s'était mis à dos une quarantaine de pays en quelques semaines, parce qu'il avait insulté tout le monde, etc. Bon, donc il a quand même besoin. Et puis c'est un homme qui est fier, qui a un but de lui-même. Et les Champs-Élysées, le 14 juillet,
c'est chic.
La Légion étrangère qui défile, c'est un truc classe. Donc c'est bien joué de la part du président Macron. Jean-Christophe Buisson a raison. L'histoire s'impose. C'est pour ça que j'avais regretté que François Hollande ne se rende pas à Moscou pour la grande parade militaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que justement, ce sont les occasions. Rappelez-vous ce qui s'est passé par rapport à l'Ukraine lors des cérémonies du 6 juin 2014 en Normandie,
en Istriam. Le format Normandie
aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire
France, Allemagne, Ukraine et Russie. On va en parler dans un instant,
donc,
justement.
Une rencontre mémorielle devient une construction diplomatique de demain. Donc je trouve que c'est très très bien joué à tout point de vue. Il y aura d'ailleurs la garde au drapeau américaine sera constituée de soldats américains Samis en tenue 17, cette tenue qui avait frappé les Français parce que les Américains étaient un peu plus grands que le 1m66 du soldat français moyen. C'est une tenue qui colle plus au corps, qui est un peu plus non pas guerrière parce que Dieu sait qu'en 17 les soldats, c'est à la fois une élégance, quelque chose de sportif, de militaires, alors que cette armée qui arrive, c'est une armée, pardonnez-moi l'expression, les militaires diraient de bleu bite, qui ne connaît rien à la guerre, parce que c'est la conscription
garde nationale.
Et d'ailleurs, elle n'interviendra, Jean-Christophe le décrit très bien dans son livre, qu'un an plus tard, et les armées américaines combattront 6 mois. Sur le territoire français, effectivement. Mais, ils n'ont pas joué un rôle totalement déterminant, renversant la vapeur militaire, mais ils ont été courageux au combat. Et puis, il y a le rôle des Afro-Américains, très important, qui très souvent servaient sous uniforme français, sous commandement français, et qui étaient extrêmement surpris de l'absence de racisme des cadres français.
Et mieux considérés par l'armée française que par l'Amérique.
Absolument. Donc, c'est une très grande richesse, très intéressante. Donc, c'est un beau coup. Et juste dernier mot, nous avons des intérêts communs. Nous avons des engagements militaires communs. Le chimique en Syrie, la lutte contre le terrorisme, les soldats américains et français travaillent très bien sur le terrain. Le renseignement
Sahel, ailleurs, français, américains, le partage se passe bien. Et donc là, le président Macron, c'est l'occasion aussi de voir Trump et de réaborder toutes ces questions.
Et d'un point de vue diplomatique, en termes d'image aussi, dernier mot, c'est que Trump a accepté et il accepte de venir honorer l'intervention des Américains en Europe pour la première fois de l'histoire, ce qui laisse entendre que l'isolationnisme dont il, auquel il se référait dans sa campagne n'est peut-être pas un mot qu'il va assumer jusqu'au bout. Et le fait qu'il accepte l'idée que les États-Unis sortent de chez eux pour intervenir sur les théâtres extérieurs, c'est un petit peu contradictoire avec sa campagne, ce qui prouve bien qu'il sera sans doute moins... Mais comme Wilson avait promis qu'il n'entrerait jamais en guerre...
Et il est rentré finalement en 1917. Ouais. Et tout ça dans un contexte, évidemment...
Il faut lire les livres d'histoire.
Ben oui, mais c'est en permanence. J'ai lu le bouquin de Jean-Christophe Buisson pour les vacances de Noël dernier, 1917-1918.
L'histoire est prégnante de partout. Quand vous commentez le défilé du 14 juillet, vous avez la monarchie, l'empire, la république, ça soigne de partout. Histoire, tradition et modernité, on baigne en permanence.
C'est pour ça qu'on a reparlé de l'histoire. Et on parlera de Chypre dans un instant, justement. Voilà, il y a 40 ans. Oui. Voilà. On oublie complètement ce qui se passe à Chypre. Oui. Visite dans un contexte quand même particulier. Question sur l'OTAN, les accords de Paris, bien sûr. Macron qui reçoit Trump, qui avait reçu Poutine. Deuxième déplacement, je le disais, au Mali pour le président de la République française. Le G20 de Hambourg dans une semaine. Je ne sais pas si Emmanuel Macron s'est fait un nom, justement, sur la scène internationale. En tout cas, autre dossier sur lequel, eh bien, il essaie de peser, hein. Il est intervenu cette semaine, c'est l'Ukraine, avec cette mise en garde à destination de la Russie.
J'ai réaffirmé la position constante de la France depuis la prise de contrôle par la force de la Crimée par la Russie en mars 2014. La France demeure plus que jamais attachée à la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Et comme ses partenaires de l'Union européenne, elle ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. Et là-dessus, vous avez parfaitement raison, il importe à chaque fois de le répéter.
Président ukrainien reçu à l'Elysée. Emmanuel Macron y compte. Alors d'une part, s'inscrire dans le processus des accords de Minsk de 2015, un petit peu en panne, hein. Minsk, c'est-à-dire donc eh bien rendre à l'Ukraine sa souveraineté sur le Donbass, sur ses provinces séparatistes de l'Est, en échange de davantage d'autonomie. D'autre part, poursuivre les discussions d'ici le G20 entre Russie, Ukraine, France, Allemagne, le format Normandie dont on parlait, Pierre Servent. Tiens, Jean-Christophe, Pierre, c'est quoi la contribution que peut apporter la France de Macron sur le conflit ukrainien, Jean-Christophe Buisson?
Bon, sur le Donbass, un cessez-le-feu serait le bienvenu, parce qu'on en parle peu, mais le conflit perdu, c'est un conflit froid.
Bref, toujours avec, fragile, avec des, bien sûr.
Avec des tensions par moment. Mais sur la Crimée, ça ne coûte rien à Emmanuel Macron de dire ça, surtout la présence du président ukrainien. Mais dans la réalité, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, par exemple, l'Espagne ne reconnaît pas le Kosovo. Nous le reconnaissons. Il y a des pays de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas le Kosovo, qui d'ailleurs est
une Roumanie, l'Espagne,
de manière unilatérale, comme la Crimée. Ça a demandé son rattachement en termes d'un référendum de manière unilatérale. Donc il y a un deux poids deux mesures qui est assez étrange. Mais tout le monde s'accommode de ça. Finalement, la Crimée n'est pas reconnue, mais la Crimée, Moscou injecte des milliards et des milliards de dollars pour aider la Crimée. Il n'y a plus aucun habitant de Crimée qui est mécontent d'appartenir à la Russie, vu l'argent que met Moscou dans la réhabilitation et dans le rattachement. Y compris par un pont de la
Crimée.
Oui, bien
sûr. À la Russie. De Kerch.
Donc ça ne coûte rien de dire ça, mais on va pas entrer en guerre pour rendre la Crimée à l'Ukraine, à laquelle elle n'appartient que depuis
1954. 54, oui, c'est ça. Ouais.
Pour fêter le tricentenaire de l'union entre l'Ukraine et la Russie, a décidé de rattacher artificiellement la Crimée qui était russe à l'Ukraine. Bon, tout ça, c'est la diplomatie gentille.
Bon, Pierre Servent.
Là, c'est un de mes rares points de divergence avec Jean-Christophe Buisson. Il y a quand même de grandes différences. Une partie de l'Ukraine a été occupée par un coup de force militaire par un pays qui était membre permanent du Conseil de sécurité, un des cinq grands. On m'aurait demandé si c'était possible 15 jours avant. J'aurais dit non, aucun des cinq grands ne va prendre une partie de territoire d'un pays souverain. Donc c'est un acte
grave. Sous le drapeau de l'OTAN, ça peut arriver. Au Kosovo, par exemple, les Américains sont arrivés, on vous répondra ça.
Oui, mais Jean-Christophe, est-ce que les Américains occupent aujourd'hui le Kosovo?
De fait, pendant des années, oui, ils l'ont occupé.
Oui, enfin, il y a pas...
Jusqu'au moment
il y a un boulevard Bill Clinton à Pristina.
Oui, non, mais ça
non, mais bon, n'a rien à voir avec l'annexion du statut de Bill Clinton.
Voilà. Le Kosovo n'a pas été annexé aux États-Unis, à la France ou à un autre pays, etc. Donc c'est radicalement différent. Et c'est extrêmement grave en ce début de 21e siècle, un pays membre permanent du Conseil de sécurité, au nom de l'histoire, et je rappelle que les Russes sont présents à Kaliningrad, dont le vrai nom est Königsberg, qui ne sonne pas franchement russe, qui est complètement prussien. Donc Angela Merkel...
Que l'Allemagne n'a jamais réclamé, donc...
Je suis d'accord, mais je veux dire, c'est dans les termes de principe, si chacun en Europe commence à revendiquer un bout de territoire qui lui a appartenu, c'est la guerre. Donc c'est important. important de le rappeler, même si je ne sais pas comment ça débouchera, c'est tout à fait inacceptable. Mais juste un mot, puisque nous sommes à quelques heures de l'intervention du président de la République à Versailles devant le Congrès, qui a soulevé toutes ces protestations, ce bruit. C'est pas
toujours les mêmes.
Oui, non, mais honnêtement, la presse aussi, les médias, le Premier ministre, ils n'existent plus, etc. Mais que de sottises, que de sottises. Vous avez rappelé l'agenda du président. C'est d'ailleurs le paradoxe de cette campagne et de toutes les campagnes précédentes. Le président de la République élu a passé son temps à batailler sur des questions de politique intérieure quand c'est pas des queues de cerises sur les affaires, etc. Et quand il arrive à l'Élysée, il n'a que des dossiers lourds, internationaux, défense, etc. Et on va dire, ah ben non, il peut pas s'exprimer avant le président, le Premier ministre, parce qu'il va lui manger la laine sur le dos. Mais quelle stupidité!
On va juste rappeler qu'en 1981, François Mitterrand avait fait lire un discours au Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, donc c'est un quart d'heure avant la déclaration de politique générale de Pierre Mauroy.
Et c'est plus respectueux des deux chambres réunies en Congrès que le président.
Sorte de discours sur l'état de l'Union, voilà, d'Emmanuel Macron,
etc. Ce qui, entre parenthèses, va donner encore plus de cohérence. Les enjeux stratégiques, c'est le président, notamment les questions internationales. Comment pouvons-nous imaginer mettre en place une nouvelle économie, les différentes réformes, sans avoir la vision globale d'ensemble? C'est au contraire, je trouve, très astucieux, très pertinent et très respectueux de la représentation nationale.
Bon, à propos des partitions, à propos des velléités séparatistes dont le monde entier est fait, quelque part, et notamment en Europe, puisqu'on a cité le Kosovo, notamment, bien sûr, on a cité l'Ukraine. Gros plan sur un pays de l'Union européenne. Oui, je parle bien d'un pays, des 28, dont on oublie, dont on ignore que depuis 40 ans, il est coupé en deux, il est occupé, la moitié est occupée par une puissance militaire étrangère, en l'occurrence la Turquie, c'est Chypre. Oui, oui. Le continent, l'Union européenne, donc, depuis l'entrée de Chypre, en tout cas, vit avec cette situation. Ça paraît incroyable. 1974, l'armée turque avait envahi le nord de l'île en réaction à un coup d'état de chypriotes grecs qui visait à rattacher Chypre à la Grèce. Des casques bleus, tiens, on parle des casques bleus qui sont déployés depuis sur place. Et mercredi, c'était le 28 juin, à Crans-Montana, en Suisse, dans une station de ski bien connue, chypriotes turcs et grecs, autour d'une table avec un médiateur norvégien, se sont retrouvés pour tenter une réconciliation. Ce médiateur norvégien.
Est-il possible de réaligner les points de vue différents? Ma réponse est oui, c'est possible, mais comme je l'ai déjà dit, ce sera très difficile. Cela va représenter un gros travail et nécessitera de la volonté et un engagement.
Oui, je le disais, c'est incroyable, en effet, qu'un pays de l'Union européenne comme ça soit toujours coupé en deux. Faut voir sur place. Il y a des barbelés, il y a 35 000 soldats turcs, il y a une ligne de démarcation, il y a Nicosie qui est coupée en deux, il y a des casques bleus, il y a des villes fantômes abandonnées. Je pense notamment à la cité balnéaire de Varosha, qui était une superbe cité dans les années 70, où tout le monde se précipitait. C'est rien, c'est fantôme, il n'y a plus rien du tout. C'est quoi l'idée? C'est de réunifier l'île, vraiment? On va y arriver ou pas? Parce que quand on
écoutait un État fédéral, Jean-Christophe Buisson, un peu sur le modèle de la Bosnie-Herzégovine, qui est aujourd'hui séparée entre la Fédération croato-musulmane et la République serbska. L'idée, c'est grosso modo, ils se mélangent pas, mais au moins ils sont en paix et ils sont supposés appartenir à un pays commun qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine avec une présidence tournante, c'est toujours mieux que la guerre. Ça, c'est une certitude. À Chypre, il n'y a plus la guerre. Depuis 40 ans, effectivement, tout ça est glacé. Il y a une volonté des deux de faire un État fédéral. Mais quand on va entrer dans un détail, on va se heurter, pardon pour le mot, à nouveau à un mur. Pourquoi ? Lorsque les Turcs sont arrivés, il y avait 18% de la population de Chypre qui était turque. Ils ont récupéré 38% du territoire. Aujourd'hui, ils négocient, ils sont descendus ils acceptent 29%, les Grecs disent 28%. Bon, admettons que ça arrive. Mais il y a d'autres problèmes qui vont surgir. D'abord, c'est la restitution. Mais c'est exactement le même problème qu'en Bosnie-Herzégovine. Il y a 100 000 Grecs qui ont été spoliés,
expulsés.
Comment on les fait revenir on les fait revenir dans des endroits où leurs maisons sont habitées par des
Depuis
Turcs qui
ne
voudront pas partir. Ensuite, s'il y a accord de cet État fédéral, il doit être ratifié par référendum, par le Nord et par le Sud. Vous pensez que la population va majoritairement ratifier ça? Rien de moins sûr. Et troisième chose, ça pose un problème, c'est que Chypre, qui devient le Nord et le Sud, admettons, réunifiés, appartient à l'Union européenne, donc vous avez des Turcs qui appartiennent à l'Union européenne. Ce cheval de Troie-là, je suis pas sûr que les partenaires de l'Union européenne l'admettront, parce que de fait, ça voudrait dire que la Turquie est au sein de l'Union européenne.
Et puis, autre point, la Turquie veut maintenir des militaires sur place. Moins peut-être, mais veulent continuer à en maintenir.
Ils veulent une présence militaire.
Quelque part, c'est une ligne que Chypriotes grecs ne veulent pas voir franchir, bien sûr. Bon, ouais, Pierre Servant, un commentaire.
Un faible espoir.
Oui, faible espoir, donc voilà, en 40 ans, on n'y est jamais arrivé. Est-ce qu'on va y arriver pour autant, là, cette fois-ci? Pas sûr.
C'est pas sûr. Et puis la psychologie d'Erdogan, à mon avis, elle n'est pas tellement dans le fait de faire la souplesse, concession, etc. Il est au contraire dans une posture néo-ottomane extrêmement rigide. Vous avez des tas de problèmes avec les Allemands qui quittent Incirlik aujourd'hui, dans la base aérienne, parce que les parlementaires allemands sont refoulés à l'entrée de la base. Enfin voilà, donc je crains malheureusement que pour les Chypriotes, on ne soit pas encore sorti de l'auberge.
Chypriote. Pierre Servant et Jean-Christophe Buisson, qu'on va retrouver dans un instant. Oui, autre question de territoire. Hong Kong rétrocédé il y a 20 ans pile. Bien chinois, Hong Kong. En tout cas, Xi Jinping, il était sur place avec un défilé militaire imposant. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Ça passe vite encore ce matin en compagnie de Pierre Servant et de Jean-Christophe Buisson. Hong Kong, ce vendredi, déploiement de force de l'armée populaire de Chine. Le président Xi Jinping, martial, passant les troupes en revue. Véhicules lance-missiles, blindés, hélicoptères de combat, porte-avions dans la baie. Voilà, dans le plus important défilé militaire dans l'ex-colonie britannique rétrocédée il y a 20 ans, pile 1997-2017. Pierre Servant, c'est une armée chinoise très visible pour ces cérémonies, on l'a vu, pour ceux qui nous suivent à la télé. Très discrète d'habitude sur ce territoire dont la défense, en effet, lui incombe depuis 1997.
Tout à fait. Et c'est un show très, très orchestré, parce que l'armée chinoise est en pleine mutation, en pleine transformation. Il y a eu un livre blanc ou un livre rouge sur la défense qui est paru en 2015 et qui montre que la Chine abandonne les gros bataillons de l'armée de terre, très peu entraînés, qui à une certaine époque étaient dirigés par des généraux plus connus pour être des tenanciers de boîtes de nuit ou d'hôtels accueillant public cosmopolite, que pour être de vrais guerriers. Donc en fait, la Chine tourne le dos à ses gros bataillons pour aller vers ce qu'on appelle une armée de projection, à la fois marine et armée de l'air. C'est pour ça que la présence du porte-avions est extrêmement significative.
Dans la baie de Hong Kong.
J'avais eu l'occasion de dire ici que les Chinois travaillent sur des plans qui ne sont pas secrets, mais sur des porte-avions à double pont, qui permettraient à la fois le catapultage et l'appontage en même temps sur ces doubles ponts. Est-ce que ça sera fait? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'objectif de la Chine, c'est d'être vraiment une puissance maritime en mer de Chine méridionale, en s'appuyant sur la bunkérisation de toute une série d'îlots, et créer là une zone de puissance dans un territoire maritime qui est stratégique pour tout ce qui est réserve halieutique, transport maritime, etc. Donc là, on a une Chine, et on a un président chinois qui est très, comment dirais-je, qui a de l'appétit pour la puissance chinoise, pour le retour de la Chine.
Et il l'a montré. Il l'a montré à Hong Kong.
Et parmi les informations dont on parle peu, et heureusement on en parle ici, vous avez régulièrement des frictions entre la marine chinoise et les avions américains qui sont sur zone et qui ne reconnaissent pas les zones que les Chinois estiment être leurs. Et donc vous avez régulièrement des accrochages par des batteries de missiles sur les avions américains. Ça tire pas. Vous avez les avions Poséidon notamment
des
américains.
Des petites tensions.
Voilà, vous avez même des frictions préoccupantes.
Alors, Hong Kong, une ville en état de siège, officiellement pour se prémunir de la menace terroriste. Bon, très bien, personne n'est dupe. À l'arrière du défilé aussi, il y avait une gigantesque bannière. Un pays, deux systèmes, cette grande politique est totalement mise en œuvre. Oui, Jean-Christophe Buisson, deux systèmes, au moins jusqu'en 2047. Liberté d'expression, justice indépendante. Est-ce la réalité vraiment? On a quand même vu certains activistes écarté hein, cette semaine pour ne pas nuire justement aux cérémonies des 20 ans, du 20e anniversaire. Les parapluies aussi étaient interdits, hein, l'objet de contestation de l'automne 2014.
Ils ont prié toute la nuit pour qu'il ne pleuve pas. Oui, bien sûr, liberté d'expression, il reste un journal indépendant à Hong Kong. Donc toutes les promesses justement d'autonomie n'ont pas évidemment été tenues. D'ailleurs, Xi Jinping récemment a fait une interview en disant il y a trois menaces qu'il faut absolument écarter. C'est l'extrémisme, le terrorisme et le séparatisme. Il a fait cette interview hier. Suivez mon regard. Pourquoi ? Parce que Hong Kong, à force d'être exaspéré par l'occupation chinoise, alors qu'ils ne se sentent pas chinois, c'est une ancienne colonie britannique avec une identité à elle qui est à mi-chemin entre plein de civilisations. Donc ils ne se sentent pas chinois comme les autres chinois du continent. Ils se sentent chinois un peu comme Taïwan. Et on sent bien qu'à force d'être serré, les Chinois sont arrivés en masse. Les prix de l'immobilier ont flambé. C'est-à-dire que la classe moyenne de Hong Kong n'arrive plus à habiter. Et l'économie s'est effondrée. C'est-à-dire que toute l'économie est partie à Shenzhen maintenant.
En face.
En face, pas très loin. De telle sorte qu'il y a des désirs d'indépendantisme qui n'existaient pas il y a 20 ans. C'est ça le paradoxe. Ils admettaient. Et surtout que la Chine est devenue exactement ce qu'était Hong Kong. C'est-à-dire qu'elle a fini par accepter d'une certaine manière le régime capitaliste, mais avec un régime politique très dur, très tenu. Et ça, Hong Kong tenait beaucoup à cette liberté-là. Donc c'est très préoccupant aussi.
Première visite de Xi Jinping depuis son arrivée comme président en 2013. On voit la Chine qui renforce nettement son emprise sur Hong Kong. 7 millions d'habitants Hong Kong.
Oui, effectivement. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de lire les écrits du premier chinois, comme il est intéressant de lire ce qu'écrit Poutine ou ce qu'il lit, pareil pour Erdogan, etc. Il faut prendre au sérieux ces personnes. C'est-à-dire qu'ils sont dans des postures que j'avais appelées messianiques, enfin de personnages messianiques.
Et ça, c'était dans Extension du domaine de la guerre.
Voilà, et le
l'avant-dernier.
Merci.
Était bien aussi.
Merci. Et le numéro un chinois a énormément publié de textes, à tel point que certains estiment qu'il y a de quoi remplir des rayons entiers de doctrine. Mais qu'est-ce qui est fort dans ce qu'il dit ? C'est à la fois qu'il souhaite une révolution maoïste, il souhaite revenir à une certaine pureté idéologique, considérant que le monde a été pollué par le consumérisme américain, par la dépravation des mœurs. Entre parenthèses, c'est la même analyse pour Erdogan et Poutine. Et qu'il faut retrouver donc cette pureté originelle qui peut parfaitement se marier avec le business bien compris. Mais par rapport à cette idée-là, c'est la lutte contre le séparatisme. Tout le combat de Mao, c'est l'unification de la Chine. Et c'est le problème de Taïwan qui est une insulte à ce séparatisme. Donc là, on a un président vraiment très, très radis, c'est-à-dire rouge, très très rouge à l'extérieur et puis blanc sur le plan économique à l'intérieur. Et on lui prête l'intention de rester au pouvoir plus que 10 années, ouais, qui sont normalement deux mandats de 5 ans, après c'est bloqué, et qui a trusté les postes et qui a fait truster les postes par des fils de mandarins comme lui, qui ont souvent ont connu des camps de travail. Hein, son père était un haut dignitaire qui a été emprisonné, et lui a été très frappé par ça. Donc on a un personnage vraiment singulier, mais avec une détermination absolument complète.
19e congrès du Parti communiste, ce sera au mois d'octobre, très important également pour des questions en effet de pouvoir, justement, est-ce qu'il va se reconduire, ouais, et combien de... Juste encore un mot, la Chine qui a fait sortir de prison Liu Xiaobo, donc le prix Nobel de la paix cette semaine, pour lui permettre d'être hospitalisé pour un cancer du foie. Les États-Unis demandent à Pékin la liberté de mouvement pour le dissident. Hein. Liu Xiaobo, lui, voudrait être soigné à l'étranger pour l'instant, fin de non-recevoir. Hein. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison, mais il n'est pas forcément libre pour autant. Juste un mot, pas d'assouplissement du régime, Jean-Christophe Buisson.
Non, pas d'assouplissement, parce qu'on parle de Liu Xiaobo, mais il faut parler aussi de sa femme.
Oui, sa femme, parce que c'est pareil.
Donc on n'a aucune nouvelle, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle a signé à résidence quelque part. Elle a demandé des dizaines de fois de voir son mari et n'a pas pu en prison. Et là, si j'ai bien compris, il sort dans un état quand même désastreux. Alors peut-être pas dans le même état que l'étudiant américain qui était prisonnier en Corée du Nord et qui est rentré pour mourir dans son pays d'origine. Mais effectivement, ça peut être quand même un caillou dans la chaussure du président chinois, parce que s'il a une mobilisation internationale en faveur de Liu Xiaobo, ça peut vraiment lui coûter.
Merci Pierre Servent, donc spécialiste des questions de défense. On le rappelle, hein, alors que les vacances démarrent peut-être pour certains et certaines en ce premier week-end de juillet. Le Testament Olic, c'était le roman Les Présidents à la guerre 1958-2017. 2017, ça s'arrêtait à Macron, mais il y aura probablement une suite, bien entendu. Hein. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, qui vous propose, allez, toujours jusqu'au 31 décembre 1917, l'année qui a changé le monde. Il faut aller voir l'histoire, mais il n'y a pas que l'histoire, il y a de la culture également, de la politique. Enfin, c'est magnifique ce bouquin. Et puis, journal d'un diplomate en Russie, 1917-1918, les coulisses de la révolution russe, vue par le diplomate Louis de Robien. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Vivement le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.